Merci Thomas Cluzel, c'est parti. Bonjour à tous, la Grande Table continue sa traversée à la lumière de l'actualité estivale. À 13h50, François Sureau poursuivra sa promenade le long de la Seine pour nous livrer ses histoires les plus secrètes. Mais avant cela, nous allons parler de l'emprise dont Sophie Lambda, elle-même victime, a décidé de décortiquer les mécanismes dans la bande dessinée « Tant pis pour l'amour ». L'emprise, qui suite au Grenelle des violences conjugales, fait son entrée dans les codes civils et pénals, marquant une volonté des pouvoirs publics de lutter contre un phénomène qui échappe souvent à la justice et peut mener au pire. Dans Liberté, Égalité, Survie, la magistrate Isabelle Rome, haut fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, revient sur les nouvelles mesures prises et mises en place, l'espoir qu'elle suscite aussi de sauver les plus de 120 femmes qui meurent chaque année sous les coups de leurs bourreaux. Des chiffres stationnaires révoltants que le confinement a particulièrement mis en lumière et dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes sur France Culture, bienvenue dans la Grande Table d'été.
La Grande Table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à toutes les deux. Alors d'abord, peut-être un petit mot sur cette décision de mettre une histoire en bande dessinée, une histoire de manipulateur, hein, c'est le sous-titre de la bande dessinée, « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur ». C'est une histoire d'emprise, Sophie Lambda, que vous racontez oui. À travers ce prisme-là d'une récit, d'une autofiction.
Oui, une autofiction, une autobiographie presque, on pourrait dire, même si c'est très forcément, il y a des choses qui ont été condensées pour que ça rentre dans des cases et dans un livre. Mais oui, une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, que j'ai eu besoin de raconter, tellement la violence était, c'était une surprise. Hein, moi, je pensais pas, je pense peut-être un peu avec prétention que je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres et que ça ne m'arriverait pas à moi. Donc voilà, quand c'est arrivé, eh ben, il faut bien faire avec. Et puis tout ce qu'il a fallu mettre en place pour que ça aille mieux, ça m'a semblé important, en tout cas, de le raconter de manière abordable et ludique, puisqu'en dessin, c'est toujours plus sympa pour les grands enfants qui sommeillent en nous. Voilà.
Alors Isabelle Rome, cette notion d'emprise, c'est une notion bien connue des psychiatres notamment, mais qui a fait son entrée aussi dans les codes civils et pénals. Peut-être un petit mot de ce phénomène psychologique que vous, enfin de ce mécanisme que vous décryptez vous oui. aussi dans votre livre, dont vous donnez les définitions.
Alors, c'est un mécanisme qui n'a pas été identifié depuis si longtemps et porté à la connaissance des professionnels comme les magistrats, les avocats depuis si longtemps. Ce qui fait que pendant longtemps, on ne comprenait pas très bien le comportement de certaines femmes qui étaient victimes de violences et qui paraissaient ne pas pouvoir s'échapper ou retourner auprès de leur bourreau et on ne comprenait pas. Et en fait, les psychologues, les psychiatres nous ont expliqué au fil des années ce qui se passait. Et c'est en fait un état dans lequel l'agresseur, enfin le conjoint, place sa conjointe, sa femme, avec un ascendant sur elle, un état de domination et aussi de manipulation. Et je crois que le terme de manipulateur est peut-être celui qui convient le mieux quand on parle d'emprise. Ce qui fait qu'en fait, cette femme qui est sous emprise est à la fois dans une situation de soumission, mais aussi d'une très grande dépendance affective. Ce qui fait qu'elle n'arrive souvent pas déjà dans un premier temps à prendre conscience vraiment de ce qui lui arrive et du danger qui peut être la guette. Et puis ensuite, ce qui rend aussi compliqué sa prise de décision pour parler, puis éventuellement pour partir et ne jamais revenir.
Sophie Lambda, vous prenez la décision, et vous l'expliquez d'ailleurs dans votre bande dessinée, de ne pas utiliser le terme de pervers narcissique, alors qui au départ est un vrai terme de professionnel, mais qui en même temps a été beaucoup manié par la presse et par tout le monde, et peut-être un peu déformé. Vous utilisez ce terme global de manipulateur qui recouvre plusieurs pathologies, si on va du côté des pathologies, mais envers lesquelles vous n'avez pas d'empathie, vous décidez de prendre le parti de les mettre dans une catégorie commune,
un petit peu, oui.
Qui permet justement de comprendre ce qui se passe du point de vue des victimes et non pas simplement de la pathologie qui excuserait,
mais surtout, moi j'ai l'impression que déjà le pervers narcissique est quand même pas si courant que ça, alors que les manipulateurs, il y en a quand même beaucoup. Et c'est pas parce qu'on rentre pas dans la case de pervers narcissique qu'on est totalement sain et pas toxique pour les autres. Et de fait, moi j'ai eu envie de me focaliser sur les victimes en disant, si vous identifiez un manipulateur, qu'il soit sociopathe, pervers narcissique, vampire psychique, peu importe, il faut commencer, bon voilà, à se questionner, à partir si on peut, évidemment, si on a l'indépendance, enfin si on est déjà indépendante, on peut le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, je crois de pas forcément se torturer l'esprit à essayer de mettre la bonne étiquette sur ces personnes-là. Si on est sûr que c'est des manipulateurs, je crois que ça a suffi, en tout cas.
Alors vous utilisez dans votre bande dessinée une sorte de barème qui est celui aussi donné par les associations et les professionnels, qui sont des critères qui permettent de comprendre à quel moment les choses ne sont plus acceptables dans une relation.
Oui.
Sophie Lambda, peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots de ce barème-là.
Alors il y en a deux. Il y avait le violentomètre qui m'a été celui-là qui a été fait par la mairie de Paris, qui m'autorise à utiliser dans la bande dessinée. Ça, c'est des critères très très précis pour savoir, c'est visuel en plus, c'est à partir de quand on arrive dans le rouge et à partir de quand il faut vraiment commencer à se protéger psychologiquement et physiquement. Et puis, il y a aussi les 30 critères que j'ai empruntés à Isabelle Nazaraga qui a écrit beaucoup de livres sur l'emprise, les manipulateurs en amour, qui permettent d'identifier, avant même les violences physiques, qui permettent d'identifier l'emprise psychologique et la violence psychologique au sein du couple. Ça, c'est le premier pas, en fait. Parce que parfois, il faut partir avant la violence physique aussi.
Isabelle Rome, c'est effectivement cette pente-là. C'est l'emprise, la question de l'emprise serait la source des principales violences, en particulier des violences conjugales. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces outils, justement, mis à la disposition de tout un chacun pour essayer d'évaluer, de comprendre une situation d'emprise? Alors là, je lis quelques mots de ce baromètre. Dans le vert, est-ce qu'il respecte tes décisions et tes goûts, accepte tes amis, ta famille, a confiance en toi? Quand on arrive dans le rouge, est-ce qu'il te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe? Ça paraît évident, mais entre les deux, il y a des débuts d'emprise qui se mettent en place avec les moqueries, le fait d'être rabaissé sur des petites choses, être moqué en public.
Oui, je pense que c'est très important de bien dire que les violences psychologiques constituent des violences. Elles sont même considérées comme des violences volontaires sur le plan pénal. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les violences volontaires qui donnent des bleus, qui sont répréhensibles pénalement, mais les violences psychologiques le sont aussi. Et bien souvent, les violences psychologiques sont la première étape avant les violences physiques. Parfois, une gifle, si elle doit interpeller, n'est pas forcément révélatrice de violences psychologiques. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas interpeller.
Elle est une violence en soi.
C'est ça, bien sûr, elle est une violence. Mais il n'y a pas forcément tout un environnement de violences psychologiques. Et à l'inverse, on peut avoir une personne qui peut vivre pendant 5 ans avec des violences psychologiques avant un passage à l'acte physique, mais qui est complètement détruite. Et donc, c'est vrai que nous n'utilisons pas forcément, ces outils qui sont tout à fait utiles et qui sont diffusés par les associations. Moi, et dans mon livre notamment, je parle de mon expérience de présidente de cour d'assises, et c'est vrai qu'à ce titre, j'ai vu les affaires les pires, c'est-à-dire soit qui ont donné lieu à des meurtres, des assassinats ou des viols conjugaux. Et en fait, ce que j'ai constaté, que le processus, il est presque toujours le même, et qu'il y a c'est vraiment une descente dans l'abîme avec des tas de symptômes qu'on retrouve toujours, cette volonté d'isoler sa conjointe, de sa famille, de ses amis, la faire quitter son travail, ça peut aller jusque-là, la mettre dans une dépendance financière, lui enlever sa carte bleue, l'humilier, la rabaisser, surveiller ses appels téléphoniques, l'empêcher de regarder les personnes dans la rue en face, pour quelqu'un par exemple qui travaille dans le commerce, l'empêcher d'être en contact avec des hommes, enfin voilà. Et tous ces symptômes, moi j'appelle ça des symptômes, c'est peut-être pas le terme scientifique, mais c'est mon terme en tant que présidente d'assises, je les ai tellement toujours retrouvés dans ces meurtres, dans ces assassinats, dans ces viols conjugaux.
Oui, mais là, on se dit, comment est-ce que l'on prouve ce genre de situation? Bon nombre de situations qui sont décrites, Sophie Lambda, dans votre livre, on se dit bien qu'elles échapperaient facilement à des questions juridiques. Alors peut-être il pourrait y avoir des SMS, peut-être des messages vocaux. Et puis on voit aussi qu'il y a tout un cheminement. Vous raconter le début de cette histoire en parlant de l'histoire idyllique,
oui,
telle qu'elle est au départ, selon
c'était
vous.
C'était bien. En plus, on évoluait dans des milieux professionnels un peu similaires, en tout cas créatifs, des choses comme ça. Donc oui, c'est sûr, on tombe pas amoureuse de quelqu'un de violent et d'enfermant, en fait. Donc oui, et puis c'est vrai que ce qui rend difficile, et ça, c'est ça leur donne du grain à moudre, j'ai envie de dire, c'est que quand ça se passe en face à face et qu'il n'y a pas de trace, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et il y a des choses qui peuvent rendre folle, parce qu'on sait qu'on a vécu ces situations, mais on a en face de nous quelqu'un qui est encore plus convaincu que non, ça s'est pas passé comme ça, c'était ta faute, c'était toi. On en revient à se remettre en question. C'est aussi ça que c'est à ce moment-là que l'emprise arrive. Quand on remet en question ses propres paroles, ses propres valeurs et qui on est, en fait, on dégringole tout doucement. Et du coup, l'emprise prend de plus en plus de place. Mais c'est vrai que c'est des situations, comme toute relation humaine, ça se passe, voilà, entre deux personnes. On peut le décrire derrière. Il y aura toujours des petites modifications, voilà. Mais avec un manipulateur, c'est l'enfer, puisqu'il va garder des petites bribes de vérité. Avec un petit peu de mensonge, et il va quand même raconter quelque chose de crédible, mais qui n'a rien à voir finalement avec la réalité.
Et rendre tout
ça
confus.
Rend fou. Et rendre tout confus. On vit dans le flou, en fait. On a du mal à réfléchir parce que plus rien n'est intelligible, en fait.
Alors on comprend que dans votre bande dessinée, qui a beau être un récit réel et autobiographique, il y a une matière à fiction formidable dans cette figure du manipulateur et de sa double figure. Il y a l'être social. Souvent admiré, souvent qui affiche une réussite sociale importante.
Ouais.
Et puis il y a l'être dans sa vie privée qui
quand les portes sont fermées
est violent.
On ne sait pas ce qui se passe. Oui, quand les portes sont fermées, c'est vrai que c'était en plus quelqu'un que quand il arrive en soirée, tout le monde est content, il est très drôle, il est. Mais même moi, les premières fois que je l'ai rencontré, c'était voilà quoi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui fait écarquiller les yeux un petit peu. Et d'ailleurs, pas que des femmes, même des hommes, des amis à moi qui l'avaient rencontré. Même les hommes tombent amoureux de cette personne, quoi. C'est quelqu'un qui laisse pas indifférent. C'est quelqu'un de brillant.
Isabelle Rome, c'est une situation que vous avez connue en tant que magistrate, des personnages extrêmement séduisants, devant notamment des jurys de cour d'assises qui ne sont pas nécessairement formés à cette question de l'emprise, de la manipulation, à tous ces mécanismes psychologiques qui existent aussi du côté des violents et des hommes violents, puisque c'est quand même en grande majorité des hommes. Les chiffres sont répétés dans votre livre.
Bien sûr. Voilà. Oui, mais tous... alors oui, il y a des hommes séduisants, mais tous ne sont pas forcément des hommes séduisants. Il y a aussi des hommes qui boivent, enfin voilà, qui sont oisifs, enfin qui, voilà, bon, tous ne sont pas forcément des séducteurs ou des hommes séduisants.
Mais ce profil-là, vous l'avez.
En revanche, oui, je l'ai connu aussi, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que on est encore moins cru à l'extérieur. Il est tellement sympathique, ce monsieur, on ne pourrait pas croire qu'il va enfermer comme ça sa femme et l'humilier. Voilà. Donc bien sûr que c'est difficile. Et je pense qu'il faut vraiment que... C'est pour ça qu'il est important aussi qu'on essaye d'attirer l'attention des entourages, des proches, sur ce que peut vivre comme ça une femme sous emprise. Par exemple, quand on constate que cette jeune femme qui ne sort plus du tout avec ses amis, ou d'un seul coup, ou alors qu'elle va complètement changer sa tenue vestimentaire, ne plus se maquiller, enfin bon, il y a plein de, peut-être de choses auxquelles il faut être attentif quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne qui d'un seul coup. Disons au bout de quelques semaines, va se mettre à changer d'attitude. Et je pense que c'est un petit peu aussi ce que j'explique dans le livre, parce que c'est important. Et là, il faut essayer de l'aider. Ce n'est pas facile, parce que et je pense que vous êtes certainement encore mieux placée, Sophie, pour le dire, mais quand on est amoureuse ou ça, on a peut-être aussi tendance à ne pas vouloir voir ça. Et donc, essayer de lui dire, mais tu vois pas ce qu'il est en train de te faire, c'est pas toujours simple. Voilà. Mais pour autant, je pense que j'aime bien dire qu'il ne faut pas la lâcher. Voilà. Si on aime, il faut pas la lâcher. De même que lorsque commencera à prendre conscience de la situation d'emprise et donc de danger dans laquelle elle va se trouver, il faut aussi beaucoup l'accompagner, parce que justement cette emprise va faire qu'à un moment donné elle aura peur aussi de le quitter, non pas seulement de ses menaces, hein, mais peur de se retrouver, j'allais dire, nue entre guillemets au sein de la société sans cet homme qui a pris sa vie en main. Finalement, et c'est là que c'est important d'être à côté d'elle, justement pour l'accompagner, la soutenir, parce que aussi on s'en sort. Hein, voilà.
Ce personnage,
c'est important.
Justement, qui intervient dans votre livre, Marcus dans votre livre, c'est aussi un personnage assez tout puissant. Alors le personnage de fiction, on le connaît aussi dans le film de Mai Wen, Mon Roi, qui décrit ce phénomène-là, ce double visage, en montrant bien qu'entre la violence psychologique et la violence physique, il n'est pas une différence de nature, mais plutôt une différence de degré, d'intensité. En tout cas, la violence, elle existe.
La violence, elle existe. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai qu'entre la violence physique et la violence psychologique, la frontière est mince. Mais après, c'est vrai que c'est une histoire d'image. Ça dépend aussi de. Enfin, si on parle du manipulateur, ça dépend dans quel milieu il évolue. Je crois que lui, en tout cas, le mien, en l'occurrence, son image sociale était très importante pour lui. Il connaissait énormément de gens dans ce milieu-là. Donc s'il y avait eu des traces, des preuves de cette violence, il s'en serait pas sorti. Ça aurait été compliqué pour lui.
Pourtant, vous faites allusion à un autre personnage, Maëve, dans votre bande dessinée, qui, elle, a reçu des gifles.
Oui.
Donc la violence, elle était bien là. Ou la violence contre lui-même, devant cette personne, le chantage au suicide, sont d'autres formes d'atteinte sur son corps et sur le corps des autres.
Là, pour le coup, il y avait des traces, parfois. Mais il y a toujours des explications. C'est des gens qui rebondissent aussi à tout, qui ont des explications pour tout. Et quand lui, parfois, ça m'est déjà arrivé de le revoir avec des coups, les gens le croisent parfois avec des... Il a toujours une explication, c'est jamais de sa faute en fait, c'est une agression, c'est toujours la pauvre victime. Bon, à force de répétition aussi, quand quelqu'un revient toujours avec des bleus et a toujours une version de... Enfin, une explication qui n'est jamais de sa faute. En tout cas, quand c'est un homme, faut souvent se poser des questions. Mais c'est vrai qu'ils ont des pirouettes pour tout aussi, c'est ça le problème. Ils sont bien plus forts que le commun des mortels, en fait.
Je vous propose d'écouter un extrait du film de Mai Wen, Mon Roi, sorti en 2015.
Tu cherches quoi exactement? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux?
Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu es tellement
mieux. Tu te rappelles d'ailleurs que c'est toi qui es venu me chercher?
Moi, je suis venu te chercher.
T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque.
Ouais.
On quitte les gens pour la même raison.
Exactement, chose, exactement.
Pour laquelle
exactement
nous ont attiré en premier
exactement.
Lieu.
Et c'est pour ces raisons-là précisément.
D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire. Hein.
Mais on construit rien.
Ah bon?
Non, on se détruit, c'est tout. Pas toi.
Ah, pas moi.
Pas toi, parce que rien ne t'atteint, et puis de toute façon...
La pudeur, t'as entendu parler? Quand on aime, on souffre.
Isabelle Rome, quand on aime, on souffre. Tout est contenu dès le départ, hein, d'ailleurs, de cette histoire. Hein, lorsqu'elle rencontre le personnage joué par Vincent Cassel, la violence est contenue dans les premiers mots. On peut imaginer ce qui va se passer. Qu'est-ce que la justice peut faire contre une violence si insidieuse, Isabelle Rome?
C'est assez compliqué, mais je pense que justement, il faut que petit à petit, nous arrivions à construire ces indices, ces faisceaux d'indices qui permettent de d'établir justement cette violence psychologique, c'est-à-dire essayer de se souvenir, par exemple, si des mots ont été échangés en présence de telle ou telle personne pour ensuite éventuellement recueillir un témoignage. Alors moi, je parle vraiment en tant que magistrate, donc ça paraît très carré, mais
non,
bon,
mais qu'est-ce qu'on arrive à prouver devant les tribunaux?
Justement, on peut y arriver en prouvant un faisceau d'indices qui peuvent caractériser une violence, c'est-à-dire si on demande un certain nombre, même pas quand je dis un certain nombre, ça peut être deux, hein, je veux dire deux témoignages de proches qui peuvent dire on a vu qu'elle a changé de comportement. On a vu qu'elle s'est repliée sur elle-même. Il était humiliant à son égard. Enfin, vous voyez, ça c'est important. On peut avoir aussi tout ce qui est messages envoyés par SMS ou par mail. Ça c'est très important.
Mais est-ce que ça suffit à faire condamner des gens que d'avoir des preuves qui ne sont pas directement des menaces de mort ou des... Est-ce qu'on tombe sous le coup de la loi, Isabelle Rome?
Alors tout dépend. Alors voilà, ça dépend. Oui, on tombe sous le coup de la loi, comme je l'ai dit, on est sous une forme de violence psychologique. Il y a même une infraction spécifique qui est le harcèlement moral au sein du couple, qui est une infraction spécifique. Et donc, cette infraction, elle est punissable. Et là, justement, dans la proposition de loi qui est en cours de discussion au Parlement, qui, j'espère, va être adoptée avant la fin du mois de juillet, on a notamment une aggravation des sanctions dans cette infraction l'infraction de harcèlement, lorsque ce harcèlement au sein du couple peut amener la personne à se suicider ou à tenter de se suicider. Voilà, puisque aujourd'hui, enfin, à la fin, lorsque cette loi sera votée, ça sera punissable de 10 ans d'emprisonnement.
Oui, mais on punit après que le mal ait été fait à ce moment-là.
Alors là, c'est parce qu'on a, on aggrave, mais sinon, avec par exemple un certificat médical qui va prouver non pas une violence physique, puisque là on n'est pas sur de la violence physique, mais que la victime justement va mal psychologiquement et que cet état psychologique peut entraîner une incapacité. Alors on est obligé de parler comme ça, une incapacité de travail de moins de 8 jours ou de plus de 8 jours, vous voyez, on aura des peines différentes encourues et des sanctions différentes. Et en fait, on a simplement ajouter cette circonstance aggravante en cas de suicide, mais d'ores et déjà, en fait, il faut faire constater, pour ce harcèlement moral, il faut faire constater par un médecin ou un psychologue une altération de ses conditions de vie dues justement à ce harcèlement moral.
Et quel est le risque encouru ?
Alors là, en fait, alors quand l'incapacité de moins de 8 jours, c'est une contravention. Quand elle est de plus de 8 jours, c'est un délit. Et actuellement, la peine encourue en cas de délit, elle est tout de même de 2 ans. Voilà. Alors évidemment, on n'est pas sur des peines aussi lourdes qu'aux assises, mais bon, on doit aussi, je veux dire, on est dans un état de droit, on peut pas tout mettre au même niveau. Voilà. En revanche, comme je vous le dis, lorsqu'on arrivera à une tentative de suicide, ça sera punissable de 10 ans d'emprisonnement.
Le problème étant toujours le même, que les victimes puissent avoir les ressorts et psychiques d'en arriver là, mais aussi que la plainte puisse être prise aussi et être déposée dans les commissariats de police. Il y a eu tout un tas d'associations qui s'expriment, Isabelle Rome, en permanence sur ce sujet, en disant que le problème arrive en amont.
Oui, alors je pense que ça a été quand même l'objet de travaux importants dans le cadre du Grenelle. Je crois que
Grenelle des violences conjugales.
Oui, pardon, excusez-moi, du Grenelle des violences conjugales, donc organisé par le gouvernement entre septembre et novembre 2019, que de travailler là-dessus afin justement qu'une victime ne reparte pas d'un commissariat ou d'une gendarmerie sans avoir été entendue. Et je pense que les consignes aujourd'hui, elles passent. Il y a une grille aussi d'évaluation du danger qui a été élaborée, des formations qui sont renforcées, il y a des intervenants sociaux, 80 intervenants sociaux qui vont être recrutés de manière supplémentaire donc dans les commissariats ou dans les gendarmeries. Ce message est en train de passer et je pense qu'on en a quelque part une illustration pendant la période du confinement, puisqu'en fait les interventions des forces de l'ordre ont été augmentées de 30%.
Mais une période où on était particulièrement en alerte sur le risque, la menace.
Ce qui veut dire que quand même les consignes, mais ce qui se passe pendant le confinement, c'est quand même aussi révélateur. Ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience que des consignes claires sont passées aux forces de l'ordre, que la justice, considère ces violences comme un contentieux prioritaire. C'était la seule chose quasiment qui était jugée pendant le confinement, c'était les violences intrafamiliales. Donc vous voyez, tout cela, alors certes, bien sûr, tout cela a été exacerbé pendant le confinement.
Et il y avait une attention particulière des pouvoirs publics aussi.
Pourquoi il y a eu cette attention ? Parce que quand même ce sujet des violences intrafamiliales est aujourd'hui considéré comme une priorité, que ce soit au ministère de l'Intérieur comme au ministère de la Justice. C'est une priorité de politique pénale et ça c'est acquis aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas développer tout, mais avec tout un certain nombre d'actions qui en découlent.
On va y revenir, si on peut parler d'un grand retard de la France en la matière. D'autres pays se sont emparés de cette affaire il y a bien longtemps. Je pense notamment à l'Espagne depuis 1997 et cette affaire tragique qui, peut-être vous pouvez nous en dire quelques.
Oui, c'était ce drame horrible là. C'était cette femme qui s'appelait Ana Morantes là, qui avait été brûlée par son conjoint après, je crois, une dizaine de dépôts de plainte. Hein, voilà. Et donc elle avait été particulièrement mal entendue, enfin non entendue. Et il y avait quelque part le peuple s'était révolté face à cette injustice. Et à partir de cela, eh bien des programmes ont été mis en place, des plans, le fameux bracelet anti-rapprochement que nous allons d'ailleurs mettre en place aussi.
Alors expliquez-nous ce que c'est le bracelet anti-rapprochement
de septembre. Voilà. Donc le bracelet anti-rapprochement. Donc là, c'est un système qu'on va mettre en place et qui est vraiment directement inspiré du système espagnol. Enfin, moi-même, je suis allée le voir comment ça se passait. En fait, il y a un bracelet donc qui est placé sur la personne de l'agresseur, ainsi qu'un petit émetteur. Et puis la victime, elle a un petit émetteur sur elle. Voilà. Et le juge, donc, lorsqu'il prononce une interdiction d'entrer en contact, eh bien, fixe aussi un rayon
interdit. De 500 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre,
voilà, c'est ça. Et donc, il y a un système de géolocalisation qui permet donc de savoir tout le temps où se trouvent l'agresseur et sa victime, et une plateforme de téléassistance qui surveille à travers des écrans. Et vous avez, lorsque l'agresseur franchit ce périmètre, hop, un signal qui alerte le téléopérateur.
Donc, et qui alerte la victime.
Alors, pas tout de suite, ça dépend. Voilà. Parce que s'il n'est pas en violation, parce qu'il ne sait pas forcément qu'il entre dans le périmètre interdit, s'il n'est pas en violation de son interdiction d'entrer en contact, le téléopérateur donc le contacte en lui disant ben voilà, vous êtes en train de franchir un périmètre, donc il faut que vous vous éloigniez. Et ça peut s'arrêter là, voilà. Si, en revanche, il continue à ce moment-là, là, il rentre en violation, donc rapport d'incident, et surtout, le téléopérateur prévient à la fois les forces de l'ordre pour qu'elles interviennent, mais aussi la victime pour qu'elle se protège éventuellement, voilà. Donc, en fait, le système, c'est ça, et c'est vrai que... en Espagne,
Le nombre de féminicides ont été divisés par deux.
A largement baissé. Je crois qu'il y a très, très, très peu d'incidents et les vraiment très rares incidents qu'il y a pu avoir, c'est lorsque des femmes avaient déconnecté leur système.
Voilà. Alors, il a fallu attendre que cette histoire tragique. On va écouter Marisa Soleto Avilla, juriste espagnole et fondatrice de l'association, en parler. C'était le 22 novembre 2019 sur France Culture.
L'histoire que raconte Ana Orantes, c'est l'histoire de sa vie, d'une femme battue à plusieurs reprises devant ses enfants pendant toutes les années où elle a été mariée. Quand elle a voulu divorcer, la réponse de la justice, cela a été de rester vivre avec l'homme qui la maltraitait. Quand elle raconte ça à la télévision, tout le pays est scandalisé. Mais ce qui nous a le plus choqué, c'est que l'impunité ait permis à ce monsieur de tuer sa femme en la brûlant vive quelques jours après son passage à la télévision. Les faits se sont produits en 1997, à l'époque où les premières mesures étaient évoquées au niveau international pour lutter contre les violences conjugales. Il y a eu un avant et un après avec cette affaire. On se rend compte à ce moment-là à quel point la justice et ce que contient le code pénal ne sont pas suffisants pour protéger la vie des femmes quand elles sont victimes de violences conjugales. Je crois que la réaction de la population à ce moment-là a été de se dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que des femmes soient en danger de mort et que la justice n'ait pas de réponse à leur apporter ». Et à partir de là, grâce au travail de nombreuses associations féministes qui travaillaient déjà sur ces questions de violences conjugales, et des associations de juristes, on commence à faire le point sur la situation réelle dans les tribunaux. Il y avait des femmes à qui on disait « Oui, vous êtes en danger, on va délivrer une ordonnance de protection. Il ne pourra pas s'approcher de vous à moins de 10 mètres. » Et les victimes répondaient « Oui, mais alors je vais le voir. » Et on leur disait « Son travail se trouve là, alors bon. » Rien dans le cadre de la justice espagnole ne prévoyait vraiment ce que signifiait protéger une femme. À partir de là, le gouvernement conservateur à l'époque met quand même en place un instrument très efficace qui s'appelle l'ordonnance de protection. Pour toutes les femmes qui se rendaient au tribunal, le juge avait désormais à sa disposition une série de mesures de protection pour que ce qui est arrivé à Ana Orantes n'arrive plus.
Isabelle Rome, quand on entend cette histoire et les mesures qui ont été prises suite à cette histoire tragique, on se dit mais 1997 en Espagne et en France, le Grenelle des violences conjugales date de novembre dernier, novembre 2019. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je pense aussi que la mobilisation citoyenne, elle est allée croissante. Hein. Enfin, je pense que.
Mais pourquoi tant de retard? Un retard immense.
Oui,
les associations ne cessent de le dire.
Je pense que la mobilisation, elle a été particulièrement forte. On ne change pas la loi comme ça. Enfin, voilà. Et je pense que la loi. Les pratiques, elles changent quand il y a une. Et je pense que justement, c'est très important que nous soyons en dialogue constant avec les associations, avec la société civile, justement pour bien entendre tout cela. Je pense que la mobilisation n'a jamais été aussi forte que ces derniers mois, avec vous avez vu le décomptage des je sais pas si on dit décompte,
le décompte
plutôt, oui plutôt le décompte des féminicides, donc depuis pas si longtemps que ça, vraiment une prise de conscience massive.
Alors vous n'utilisez pas ce terme dans votre livre de féminicide, en tout cas vous ne vous l'appropriez pas, Isabelle Rome, pourquoi?
Alors féminicide, je pense que c'est un terme que j'emploie dans le langage courant, parce qu'on comprend bien ce qu'il évoque, hein. Il évoque le meurtre d'une femme. Mais quand on l'évoque, on pense justement à la notion tout de même d'homicide conjugal. C'est-à-dire, quand on l'évoque dans notre pays, quand on dit féminicide, on pense au meurtre d'une femme par son conjoint. Hein, voilà. C'est vrai que sur le plan pénal, il n'existe pas dans le code pénal, puisqu'en fait, ce qui est réprimé est aggravé, j'allais dire, dans la répression, c'est l'homicide volontaire. Donc ça, c'est un crime. Et ce crime est aggravé lorsqu'il est commis sur son conjoint. Voilà, donc,
ou l'ex-conjoint.
Ou l'ex-conjoint, ou même maintenant. Enfin, ça a été, vous voyez, au fur et à mesure du temps, ça a été de plus en plus élargi. C'est-à-dire que même sur un ex-petit copain. Enfin, voilà, c'est de plus en plus élargi, cette notion de couple, en fait, couple présent, couple à venir, et même c'est pas vraiment un couple, mais une histoire sentimentale, voilà. Et c'est pourquoi je veux dire les juristes, parce que bon, on fait attention aux mots qu'on emploie quand on est juriste, préfèrent employer le terme d'homicide conjugal que celui de féminicide, même si dans le langage courant on l'emploie. Voilà.
Sophie Lambda, sur les questions judiciaires, justement, est-ce que vous avez émis l'hypothèse, alors au moment où vous écriviez cette bande dessinée, au moment où vous êtes sortie de cette emprise, vous avez consulté un psychiatre, c'est ce que vous racontez dans la bande dessinée, un psychologue, une psychologue. Est-ce que vous avez imaginé une solution judiciaire? Est-ce que vous avez imaginé porter plainte? Est-ce que vous saviez même que les violences psychologiques tombaient sous le coup de la loi?
Non, pas du tout. Je me suis même pas posé la question, parce que moi je suis partie assez tôt. Et du coup, à mes yeux, enfin en tout cas légalement, je pensais pas qu'il avait franchi des limites. Je me suis dit qu'il était assez malin pour pas franchir les limites.
Sauf que vous n'étiez plus en capacité de travailler, vous avez eu des symptômes importants de dépression, d'anxiété qui vous ont empêché.
Mais j'avais pas de preuves en fait, je me disais je vais venir avec quoi? D'ailleurs, je me posais la question tout à l'heure quand on parlait de violences psychologiques dans un tribunal. Je me disais, est-ce que par exemple une victime qui est complètement isolée et qui a pas de, quand on est que deux dans une pièce et qu'il n'y a pas de preuves, pas d'enregistrement, rien du tout, pas de SMS, est-ce que ça peut être recevable par exemple de tenir un carnet et de dire aujourd'hui 15h52, je me suis pris une gifle dans la cuisine, par exemple, et de faire ça pendant des années jusqu'au jour où on est capable d'aller dans un tribunal? Est-ce que c'est recevable de faire
alors,
ça,
Isabelle Rome? Je pense que ça peut l'être. Ça peut l'être. Alors, bien sûr, comment dire, je ne veux pas faire du latin, mais testus unus, testus nullus, c'est-à-dire une seule preuve, vous voyez, un seul élément en général n'emporte pas une déclaration de culpabilité. Mais voilà, ça peut être. S'il y a par exemple des années ou des dizaines de pages, à ce moment-là, on n'est plus sur. Une unique preuve. Et alors, justement, à ce sujet, il y a une initiative très intéressante là qui a été prise par le réseau qui s'appelle France Victimes, donc qui est un réseau qui regroupe, je crois, plus de 130 associations d'aide aux victimes, qui va mettre en place à partir, je crois, de septembre, un dispositif qui s'appelle Mémo de vie. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est comme un coffre-fort numérique dans lequel, donc vous voyez, sécurisé avec des codes d'accès, on peut pas de traces sur l'ordinateur. Donc voilà, Et ça permet justement à une victime d'entrer ses témoignages, éventuellement un SMS, éventuellement, enfin tous les éléments de preuve qu'elle...
C'est daté numériquement.
Et en plus, c'est très bien fait parce que une fois qu'elle rentre ça dans le mémo de vie, il y a même des petits signaux qui parfois lui sont envoyés en lui disant comment te sens-tu aujourd'hui. Enfin bon voilà, c'est assez interactif et je pense que ça peut être très utile parce que justement, le fait de rentrer comme ça tous ces éléments de preuve constituera le moment venu, eh bien, des preuves suffisantes pour entraîner une déclaration de culpabilité de l'auteur.
Alors, vous avez l'air de nous dire, Isabelle Rome, que ces choses-là sont possibles, enfin, sont prouvables devant des tribunaux, mais on a vu beaucoup d'affaires, y compris des affaires célèbres d'accusations pour viol ou pour harcèlement, des affaires très graves, être reportées ou s'arrêter à leur balbutiement parce qu'on avait mis de côté des enregistrements, jugé des lois parce qu'on avait justement une impossibilité de fournir des preuves ou que les preuves étaient facilement écartées pour ces motifs-là.
Oui, alors au pénal, je veux dire, la preuve est tout de même large. Enfin, je veux dire, on peut prouver par beaucoup tout moyen de preuve est quasiment recevable au pénal. Hein, je veux dire,
aussi. Enfin, les enregistrements écartés, ça a été fait encore il y a assez peu de temps.
Ça,
l'affaire Tron en est l'un des exemples.
C'est ça, mais
les affaires reportées sans même qu'il n'y ait de nouvelles dates de procès, tout ça a de quoi décourager aussi un certain nombre de victimes.
Mais il faut entendre tout cela. Je ne dis pas que c'est simple, que tout est simple. Simplement, entre dire que ce n'est pas simple, mais de dire qu'on peut s'en sortir et que c'est possible aussi de prouver ces violences morales, psychologiques, et que les juges peuvent entendre cela, et que de plus en plus justement on insiste pour que les tribunaux, les cours retiennent justement ces violences morales. Voilà, ça je peux le dire, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Voilà,
loin de là.
Voilà, c'est ça. Non, mais évidemment, voilà. Mais je pense quand même qu'on progresse, et je pense que j'aimerais.
Mais pour l'instant, ce chiffre, il est resté alors, au moins 120 victimes par an.
J'aimerais revenir dans deux ans, et avec un chiffre qui baisse. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, et je n'aime pas le faire, mais. Pour l'instant, nous sommes le 1er juillet, le 7 juillet. Le nombre d'homicides conjugaux commis depuis le début d'année est plutôt à la baisse, voilà. Mais je n'aime pas dire ça parce que c'est toujours trop. Il faudra attendre la fin d'année. Mais si la tendance se confirme, je pense qu'il y aura une baisse.
Sophie Lambda, vous parlez justement dans Tant pis pour l'amour de l'aide que vous avez reçue quand vous-même vous avez décidé de faire cette démarche d'aller consulter un psychologue. Alors, quelle aide ça vous a apporté justement? Est-ce qu'il y a eu des explications sur cette emprise-là de données?
Oui, moi, ma psy m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée puisque c'est elle la première qui m'a mis un livre sur la manipulation dans les mains. Moi, je m'étais jamais même pas pensée sur le sujet encore. Moi, j'étais juste, je me sentais détruite et je savais qu'il fallait que je remonte, mais je m'étais pas du tout penchée sur ce sujet. Donc, c'est elle qui m'a ouvert cette porte. Donc voilà, c'est sûr que ça m'a énormément aidée et j'ai oublié la fin de la question.
Et d'ailleurs, vous travaillez avec ça justement, vous apportez des éléments qui sont des sortes de synthèses de lecture.
Oui.
C'est-à-dire que votre bande dessinée est une sorte de manuel aussi à l'intention des victimes éventuelles qui pourraient se servir de cette expérience-là.
Oui.
Et vous donner des adresses d'associations, des recours possibles.
Oui. Bah, disons que moi, j'ai lu beaucoup de livres pour écrire celui-là. Enfin, d'abord pour m'en sortir, et ensuite, j'en ai relu et j'ai regardé des films et j'ai fait plein de choses pour écrire celui-là. Mais je me suis dit, est-ce que toutes les femmes qui sont victimes de violences psychologiques vont avoir envie de lire 15 bouquins, regarder 12 films et écouter 135 podcasts? Je suis pas sûre qu'elles aient envie. Moi, j'ai eu besoin de le faire parce que ma personnalité est comme ça et j'ai besoin de creuser un sujet jusqu'à son cœur pour en être débarrassée, mais tout le monde n'est pas comme ça, et c'est pas parce qu'on n'est pas comme ça qu'on n'a pas le droit de mettre un petit peu ça derrière soi. Donc moi, j'ai pris tout ce qui me semblait le plus important dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai lu, pour en faire un espèce de nécessaire de survie, en tout cas, et de fuite, peut-être. Alors après, c'est sûr que ça... C'est, voilà, il y a l'essentiel, il y a le cœur, mais après, ça n'empêche pas d'aller plus loin. Et moi, j'ai mis ma bibliographie à la fin du livre pour les femmes qui veulent aller, enfin, les femmes ou les hommes, même d'ailleurs, mais bon, là, aujourd'hui, on parle des femmes, qui veulent aller plus loin. Voilà, acheter d'autres livres et creuser le sujet. Mais en tout cas, moi, je voulais faire quelque chose qui, potentiellement, pourrait provoquer un déclic. Et c'est très important, ce déclic-là, parce qu'une fois, même si on n'arrive pas à partir le lendemain, en général, une fois qu'on a ouvert les yeux, on peut plus les refermer. Et c'est important. Alors, ce déclic-là.
D'autant plus, Sophie Lambda, que vous avez aussi communiqué sur les réseaux sociaux, vous avez donné des extraits de cette bande dessinée un peu au fur et à mesure, partagé des pages. Donc il n'y a pas eu simplement les gens qui ont pu acheter cette bande dessinée, il y a aussi tous les lecteurs, les followers, qui ont pu éventuellement entendre ces témoignages-là. C'est une sorte de vengeance contre l'image publique qui pouvait circuler aussi. Il y a la question de la réputation à laquelle vous faites allusion, hein, le fait que le manipulateur auquel vous avez eu affaire, en tout cas la personne dont vous avez été victime, et puis justement vous couper, vous isoler un peu ou propager une réputation ouais, fausse vous concernant.
Oui. Moi j'ai entendu plein de choses sur moi. Ça m'a touchée pas très longtemps. Et je sais pas si le mot vengeance est approprié, mais en tout cas, mais c'était une revanche pour moi-même en fait. C'était un besoin de se relever, un besoin de montrer que tu m'as pas eu en fait. Moi non, t'as pas. Là, t'as pas chatouillé le bon poisson, et non seulement je vais me relever, mais en plus je vais en faire quelque chose d'utile. C'était important pour moi, mais après j'ai un sale caractère, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, j'ai essayé d'utiliser cette force pour en faire quelque chose d'utile pour les autres. Mais j'ai jamais voulu me venger, puisque tant que j'étais consciente que j'étais en colère contre lui, et je l'ai été très longtemps, tant que j'étais en colère, je n'ai rien écrit. En tout cas, j'ai fait des choses qui sont restées pour moi, mais en tout cas, je ne me suis pas lancée dans ce projet-là tant que j'étais en colère. Et quand je l'ai commencé, j'étais déjà bien remise. Bon, après, évidemment, écrire un bouquin comme ça, ça nous replonge dans des moments qui sont pas agréables, mais en tout cas, la colère noire que j'ai pu avoir contre lui, elle a pris plusieurs années à passer, mais elle était passée. Et j'avais plus envie de... Je pensais déjà plus à lui tous les jours. J'étais remise. Le deuil était fini, quoi. Je m'étais débarrassée de cette colère. Donc j'ai pas voulu me venger. Par contre, c'était important pour moi de montrer que oui, on peut s'en sortir et en plus on peut en faire quelque chose de beau, en fait.
Alors, vous parlez de ces moyens aussi de communication, des réseaux sociaux. À quel point ils participent de l'emprise? Dans un premier temps,
oui.
Puisque il y a ce moyen de scruter ce que fait l'autre, qui révèle de plus en plus les mensonges notamment. Et puis il y a ce deuxième mouvement qui est chez vous libératoire, puisque c'est le moment où vous partagez sur les réseaux sociaux, où vous partagez vos dessins, vous faites part de votre expérience.
Les réseaux sociaux c'est un outil fantastique quand on l'utilise à bon escient. C'est sûr que quand on est dans une relation toxique, ça devient des outils de torture. Et moi-même, je me suis pas reconnue et je suis tombée dans des états qu'avant j'aurais pu peut-être moquer ou je sais pas, mais des états. Je suis devenue obsessionnelle à un moment donné. Je suis devenue moi-même obsessionnelle des réseaux sociaux, puisque dans ces relations où on n'a pas de vérité, on comprend pas pourquoi on a mérité ça, on comprend pas pourquoi on l'a accepté, on comprend pas pourquoi un jour on a des menaces et qui durent des heures et après il disparaît pendant. Enfin, on a pas une once de vérité dans ces relations-là. C'est très difficile, surtout quand on est en recherche d'un peu d'authenticité dans sa vie. Et du coup, les réseaux sociaux, c'est tout ce qui nous reste. Donc moi, j'ai eu une période où j'épluchais chaque miette de ce que je pouvais obtenir de la vérité, de la réalité. Mais du coup, je devenais folle parce que je surinterprétais tout. J'allais voir des comptes de filles avec qui il aurait pu se taguer éventuellement. Et c'est pas la chose de laquelle je suis la plus fière. J'ai longtemps dit que je le faisais plus. Parce que les amis disent, il faut que t'arrêtes d'aller voir les réseaux sociaux. Et on dit, mais non, mais j'ai arrêté. Et le soir même, on y retourne. On se ment beaucoup à nous-mêmes aussi. Donc ouais, c'est un outil, quand on tombe dans cette obsession-là, c'est un outil affreux. Et c'est tellement en libre service, il faudrait jeter son téléphone et aller dans un temple bouddhiste pendant un mois, j'en sais rien, mais on peut pas faire ça. Donc oui, c'est très compliqué, ça déforme complètement la réalité, et puis l'autre en face sait très bien s'en servir, évidemment. Donc ça, c'était.
Ça devient un outil d'emprise comme un autre.
Bien sûr. Bah après, il y a une phase, enfin il y a quand même une partie d'acceptation, parce que moi j'allais voir aussi, j'étais, J'étais obsédée, mais quelque part, il y avait une forme de consentement à cette torture, parce que j'allais voir toutes les 10 minutes ce qui se passait. Et ça, j'étais pas obligée de le faire. Et un jour, j'ai réussi à arrêter de le faire, où j'ai vraiment tout bloqué. Ça m'a pris 6 mois après la rupture à vraiment tout bloquer et arrêter d'aller voir, quasiment complètement, en tout cas de faire très peu de rechutes. Et ça m'a libérée, en fait, de me dire... au début, on se force, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est mieux sans, et on arrive à ne plus y retourner. Mais ça prend du temps.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Gogo Penguin, qui sera au programme du festival Jazz à la Villette, repoussé au mois de septembre à l'occasion de la sortie du 5e album du trio britannique. Isabelle Rome, on parlait des réseaux sociaux, peut-être les réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs combler des failles du système judiciaire parfois. Il y a quelques jours, Marie Coquille-Chambelle accusait un comédien de la Comédie Française de l'avoir battu et menacé de mort pendant la période du confinement à 3 reprises. Alors l'affaire est bien sûr encore en cours, on ne peut pas encore en dire grand-chose, mais quand même, il y a eu tout ce courant-là d'essayer de dire ce qui était difficile à prouver devant les tribunaux, ou ce qui était difficile à faire recevoir du côté des commissariats, puisque c'est ce que dénoncent en premier lieu les associations.
Encore faut-il déposer plainte. Enfin, moi, je ne peux pas accepter cette expression de dire que les réseaux sociaux peuvent réparer des failles du système judiciaire. Non, la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux, ne se rendra jamais sur les réseaux sociaux. Accepter de dire ça, ça veut dire qu'on met la terreur. Ça veut dire que la justice, qu'est-ce que c'est? C'est quand même c'est la présomption d'innocence, c'est le respect du contradictoire. Et il faut arrêter de penser que parce que on va respecter aussi les grands principes du droit, qui sont ceux que je viens d'énoncer, la présomption d'innocence, le respect du contradictoire, on ne protège pas les victimes. Si, on peut protéger les victimes tout en respectant les grands principes de droit. Et c'est bien ça l'enjeu de la justice et d'une protection efficace des victimes. Rien n'empêche.
En tout cas, ce sont les principes, mais moins d'une femme sur cinq est victime de violences. Les chiffres sont dans votre livre et déclare avoir déposé plainte.
Oui, mais alors, quand il faut inciter, mais c'est pour ça qu'il faut inciter, et je veux dire, ça fait partie, je pense, de tout ce qui est fait aujourd'hui, mais comme je vous dis, on a une marge de progression, mais inciter à déposer plainte, oui, bien sûr. Dire aux policiers, aux gendarmes qu'ils doivent prendre les plaintes de manière circonstanciée, oui, bien sûr. Dire aux procureurs qu'ils doivent traiter prioritairement ces affaires, oui, bien sûr. Attirer l'attention des magistrats sur ces violences inadmissibles, oui, bien sûr. Bien sûr, tout ça. Mais de dire que non, accuser son agresseur sur un réseau social, je suis désolée, c'est inadmissible dans une démocratie. Alors, je sais que ça ne plaira certainement
pas. C'est inadmissible
juridique.
De
devoir en arriver là, mais on ne peut pas considérer que la justice peut passer par les réseaux sociaux. C'est de la dictature, ça. Je veux dire, et ça, il faudra se battre pour que la justice ne soit pas rendue. Mais vous pouvez lyncher. Et puis, vous pouvez lyncher des personnes par ces réseaux sociaux. Et puis, ça, d'accord, c'est éventuellement pour les agresseurs, mais pour les victimes aussi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire aussi que de dévoiler tout comme ça sur la place publique, je veux dire, une plainte, je veux dire, n'est pas forcément divulguée à la terre entière.
Et que dire d'un certain nombre de procès qui n'ont pas abouti, faute de preuves
Eh ben oui, mais c'est pas parce que vous allez révéler sur un réseau social que vous obtiendrez une déclaration.
La dictature, elle est des deux côtés à ce moment-là.
Non, alors je pense qu'il faut quand même, justement, je pense que quand on est garant de l'état de droit, on fait attention à ce qu'on dit. On ne peut pas considérer que la justice soit aujourd'hui une justice de dictature.
Non, bien sûr.
Je pense que voilà. Donc il faut faire attention aux termes employés. En revanche, oui, laisser la porte ouverte à du lynchage sur des réseaux sociaux, ça oui, c'était la porte ouverte à la dictature. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave.
Mais on peut comprendre que certaines failles de la justice aussi aient donné lieu à ce genre de choses.
Je ne condamne absolument pas les. Enfin, je veux dire, attendez que ce soit bien clair dans mon esprit. Hein, je condamne pas les femmes qui sont parce que ce sont souvent des femmes, comme vous l'avez rappelé, qui peuvent être amenées à faire ça. C'est pas ce que je dis. Mais en revanche, je ne peux pas tolérer qu'on puisse penser que c'est quelque chose d'efficace dans notre démocratie. Voilà. Et parce que on est dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est quand même la protection de tous les citoyens, des victimes comme des auteurs présumés, mais qui sont aussi présumés innocents. Voilà. Et ça, il faut bien qu'on l'entende. Et il est faux de penser que on ne respecte pas et on ne protège pas les victimes si on respecte cela. Je veux dire, on peut placer quelqu'un en détention provisoire, il est toujours présumé innocent. Hein, voilà. Et je veux dire la protection, elle existe. On peut rendre des ordonnances de protection qui existent aussi dans notre système. Les juges aux affaires familiales peuvent rendre des ordonnances de protection et protéger les victimes, et on est dans un état de droit. Mais tout cela, ça respecte un certain, avec tout cela, on respecte un certain nombre de règles de procédure qui sont la garantie du respect des libertés de chacune et chacun d'entre nous. Et si on lâche ça, mais c'est n'importe quoi.
Alors vous faites dans la première partie de votre livre le résumé de plusieurs affaires justement de victimes qui vous ont marqué, des affaires tragiques. Peut-être vous pouvez nous parler de ce choix que vous avez fait dans Liberté, Égalité, Survie, Isabelle Rome, de faire un récit détaillé.
Oui,
de certaines affaires.
Oui, je pense que vous savez, ça fait 30 ans que je suis magistrate. J'ai fait presque du pénal. Enfin, j'ai fait du pénal toute ma vie, tous les stades de la procédure, juge d'application des peines, juge d'instruction, correctionnel, et j'ai présidé des cours d'assises. Et je vis avec des visages. Je vis avec des visages, je vis avec des souvenirs, avec des histoires. Et ça me semblait important de bien dire ce qui se passait exactement. Et j'ai pensé donc à un certain nombre de femmes que j'ai rencontrées justement au cours de ces procès. Parfois, et ça pour moi c'est quelque chose qui est très dur, parfois elles n'étaient plus là. Et pour moi, dans les moments les plus douloureux des procès aux assises, c'était que quand la photo de la victime était produite par la famille, voilà. Et en général, Ce sont des photos où la jeune femme souriait, ou alors qu'elle était encore adolescente, tout ça. Et ça, pour moi, j'ai vraiment gardé ça au fond de moi. Et c'est pour elle aussi que j'ai voulu, je le dis d'ailleurs, que j'ai voulu écrire ce livre. Et j'ai voulu l'écrire sans complaisance. Alors, c'est vrai que parfois, je pense que ce livre est très cru, surtout au début, et très noir. Parce que je n'ai pas voulu épargner justement tous ces détails, toutes ces noirceurs, parce que voilà, je pense qu'il faut que tout le monde ait conscience de ce qui se passe et de ce à quoi, puisque moi effectivement j'ai par ce prisme de la présidente d'assises du pire, hein, voilà, donc mais ce que justement certaines violences psychologiques, certaines violences physiques, ce à quoi elles peuvent amener, voilà. Et c'est pourquoi j'ai pris ce parti
à des homicides, à des maltraitances,
voilà, c'est ça,
à des tortures,
et c'est pour ça que même les tortures quelque part je les ai décrites, et c'était un choix, mais je pense que je le fais avec je pense une certaine empathie, et puis ce n'est pas pour décrire seulement ça, c'est aussi pour dire on peut s'en sortir, voilà. Mais ça peut mener au meurtre, ça peut mener à l'assassinat, à la torture, mais on peut s'en sortir et on peut quitter, enfin se sortir de cet abîme par la lumière. Et laissez-moi dire, parce que c'est aussi en cela en quoi je crois, parce que sinon je ferais pas ce métier, j'aurais pas cet engagement, que le droit et la justice peuvent aider à un certain moment à retrouver ce chemin vers la lumière. En tout cas, il peut être un allié.
Alors, vous aviez parlé d'un certain nombre d'exemples de témoignages. On va écouter ceux qui étaient recueillis dans l'émission Interception sur France Inter. C'était le 17 novembre 2019.
J'ai voulu déposer une main courante pour des violences conjugales et familiales. Mon compagnon nous frappait, ma fille et moi. Le gendarme a refusé de me faire rentrer. Il m'a demandé de bien réfléchir et de revenir le lendemain.
J'ai voulu porter plainte pour violences conjugales. On m'a répondu... Vous allez lui ruiner la vie, le pauvre. Pensez à vos enfants.
Lors d'un dépôt de plainte pour violence conjugale, j'ai essuyé un refus de la policière qui m'a dit « Vous l'avez quitté maintenant, ça ne sert à rien ».
J'ai réussi à quitter mon conjoint violent. Après 2 mois de menaces et de harcèlement, j'ai décidé de porter plainte. La policière qui m'a reçue m'a dit « Il faut des ruptures dans la vie. C'est pas la peine de venir porter plainte pour ça, ça va passer. Tant qu'il n'a pas mis ses menaces à exécution, on ne peut rien faire ».
Isabelle Rome, on entend cet extrait. Alors, dans l'émission, ils ont eux aussi choisi de lire des témoignages. Hein, c'est des histoires vraies, c'est une émission documentaire. Comme vous l'avez fait dans la première partie de votre livre. Alors, on voit que, justement, la question, elle est globale. Elle est aussi du côté des policiers. Elle est aussi du côté du personnel formé ou pas formé, justement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces avancées possibles?
Je pense qu'effectivement l'enjeu de la formation il est essentiel. Hein. Je crois qu'il faut tout ce qu'on a entendu là, voilà, on ne doit plus l'entendre. C'est évident. Bon, au ministère de la Justice, nous avons lancé vraiment un travail très important avec l'École nationale de la magistrature pour mettre en place justement des formations mais pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui ont été lancées en fin d'année, là justement à peu près à la fin du Grenelle en novembre 2019, qui puissent être organisées de manière délocalisée, c'est-à-dire en proximité au niveau des cours d'appel, mais auxquelles peuvent participer non seulement des magistrats mais aussi des forces de l'ordre, des avocats, des représentants associatifs, parce que il est important de recevoir une formation et notamment nous souhaitons que sur une journée de formation, alors ce n'est pas beaucoup, mais sur cette journée, il y a des messages fondamentaux qui doivent passer. Au cours de cette journée, forcément, il y a un tronc commun justement sur la notion d'emprise et la notion du psychotraumatisme. Et puis ensuite, il y a tout un travail qui est fait en commun autour de cas pratiques parce que il faut aussi profiter de ce temps de formation justement pour se mettre ensemble à travailler sur des cas pour éviter aussi de se renvoyer les responsabilités les uns aux autres. Hein, voilà. Je pense que nous sommes tous concernés par ces violences au sein de la société et en tant que professionnels, nous avons nos responsabilités à prendre, les uns les autres, et nous avons à les assumer, mais aussi ensemble. Et parce que se renvoyer les responsabilités, ça n'a jamais fait avancer les choses. Et là, je pense que vraiment, l'état d'esprit que nous insufflons, c'est de prendre en charge ensemble, de manière concrète, ce phénomène.
Alors, vous avez participé
dans le respect, hein, voilà.
Au Grenelle des violences conjugales. Qu'est-ce qu'on peut dire des mesures concrètes qui ont été prises, des mesures en grande partie judiciaires?
Oui, alors une grande partie de mesures judiciaires
pour lutter.
Donc j'ai déjà parlé du bracelet anti-rapprochement, donc qui sera
sur
mis
le
en
modèle
place
espagnol.
En septembre. Voilà. Aussi, et ça c'est un travail important, la mise en place au sein des tribunaux de filières de l'urgence, c'est-à-dire un circuit spécial pour les violences conjugales, justement pour assurer un traitement rapide, parce qu'il faut le danger n'attend pas, hein, donc il faut agir vite, mais aussi de manière adaptée. Et donc, en fait, il faut que dès qu'une plainte est déposée ou une requête en ordonnance de protection est déposée, eh bien, il faut qu'il y ait un circuit spécial jusqu'au moment du prononcé de la décision et puis ensuite de son exécution, y compris s'il y a eu une peine d'emprisonnement ferme, la sortie de prison et la réinsertion, avec notamment un travail qui est fait aussi avec les SPIP, enfin les services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour justement tenir la victime informée de la date de sortie de prison éventuelle de la personne, donner à cette femme un téléphone grave danger, hein, puisque c'est un autre dispositif qui a été aussi énormément développé, c'est-à-dire que en février 2019, il y avait à peu près 300 téléphones octroyés.
Qui sont des téléphones, expliquez-nous, qui permettent d'intervenir rapidement.
Qui sont des téléphones, en fait, avec une touche hein, spéciale. C'est un peu le même système. Enfin, la gestion est un peu comme le bracelet anti-rapprochement, sauf que là, c'est juste la victime qui en est pourvue. Hein. Mais donc, elle actionne son bouton. Et puis, donc, il y a une plateforme qui gère cela. Et puis, qui appelle les forces de l'ordre. Et puis, pour la mettre en protection. Et puis pour la victime, c'est très rassurant justement
ça géolocalise
aussi, bien sûr, voilà.
Alors parmi ces idées, puisqu'on pourra en revenir à l'emprise,
et puis il y a plein de choses dans le code pénal aussi, dans le code civil, qui vont faire leur entrée, comme l'interdiction de la médiation, hein, la médiation pénale, de la médiation civile lorsqu'il y a des violences conjugales, parce qu'on considère que justement il n'y a pas une égalité des armes, que lorsque on a une des deux parties qui est sous emprise, elle ne peut pas librement consentir, donc interdiction des médiations. Et puis aussi cette réforme qui est en cours de discussion donc là au Parlement, qui est la réforme du secret médical, puisque en fait...
La question de sauver les victimes malgré elles, puisqu'on a compris qu'avec l'emprise, elles avaient un vrai empêchement à le faire
elles-mêmes. Complètement. Donc c'est l'esprit de cette réforme du secret médical, puisque les médecins sont tenus hein, au secret médical et ils ne peuvent transgresser. Enfin, je veux dire, il n'y a des dérogations que pour des victimes mineures ou en état de vulnérabilité. Sinon, il faut toujours l'accord de son patient pour révéler des faits à l'autorité judiciaire. Et donc, nous avons, au sein du groupe de travail que j'ai piloté au sein du ministère de la Justice, en lien d'ailleurs avec des médecins, des travailleurs sociaux, enfin il y avait 80 personnes hein, dans ce groupe de travail, donc nous avons considéré que nous devions, et c'était aussi une recommandation de l'inspection générale de la justice, que nous devions permettre aux soignants, et non pas les obliger, hein, voilà, mais leur permettre justement de porter des faits de violence conjugale à la connaissance du procureur de la République lorsque la victime, lorsqu'il a l'intime conviction que la victime est en état de danger immédiat et que elle est dans un état d'emprise qui lui paraît manifeste, voilà, parce que justement on pense qu'elle est empêchée, comme vous le dites, de parler compte tenu de cet état d'emprise, et pourtant elle est en danger. Et dans les dans l'étude qui a été faite de 80 dossiers d'homicides conjugaux par l'inspection de des services de la justice, il y avait 6 cas justement dans lesquels la victime avait consulté à plusieurs reprises sans que jamais
les médecins ont râlé contre justement cette mesure. Alors, aussi en
oui,
partie.
Oui, alors
est-ce qu'ils s'en sont saisis?
Alors
est-ce qu'ils vont s'en saisir?
Alors écoutez, là justement, c'est vraiment un travail que nous continuons à faire de manière pratique et pragmatique, hein, c'est-à-dire qu'il y a la loi, mais donc là, dans le cadre du groupe de travail qui continue de fonctionner, nous travaillons justement sur l'accompagnement de cette réforme, parce que c'est bien de déverrouiller un certain nombre de choses par la loi, mais il faut accompagner, donc donner des outils à la fois aux soignants, peut-être pour les aider, et ça c'est un travail qui fait avec des médecins à signaler, mais aussi organiser la protection de la victime, parce que effectivement c'est important de signaler, mais il faut immédiatement une prise en charge et une protection, parce que sinon effectivement ça peut être encore plus dangereux. Voilà, donc nous travaillons là-dessus actuellement.
Merci Isabelle Romé, merci Sophie Lambda d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que Liberté, Égalité, Survie est sortie aux éditions Stock le 27 mai dernier. Quant à la bande dessinée Tant pis pour l'amour, elle est publiée aux éditions Delcourt. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours.
Nous sommes ici en remontant de Paris, à partir de Sources Seine, près de Dijon, aux sources de la Seine. Nous sommes ici au kilomètre 211 de notre périple, avant d'aborder la banlieue de la capitale. Et nous sommes ici à Damary-les-Lys, devant les ruines, des ruines extrêmement romantiques, qui sont de très belles ruines, qui sont les ruines de l'abbaye du Lys, qui était une abbaye de moniales cisterciennes, dont on trouve la trace dans Joinville, et qui avait été édifiée par ordre de Saint-Louis. Depuis 1797, cette abbaye n'existe plus qu'à l'état de ruine, puisqu'elle a été d'abord ravagée par les locaux de Damary-les-Lys à la Révolution et ensuite transformée en enclos à bœufs et partiellement sauvée de la destruction intégrale par Mérimée, dont vous savez qu'il a été le premier inspecteur des monuments historiques, qu'il avait pris à tâche de restaurer les édifices de l'ancienne France détruits ou abîmés par la tourmente révolutionnaire. Et Marie Mancini, la nièce de Mazarin, celle dont il est question dans les romans d'Alexandre Dumas, a été enfermée un moment avant d'être conduite à Brouage, puisque ses amours de cartes du tendre avec Louis XIV avaient été, comme on sait, traversées par la raison d'État. On voit ici, au milieu d'un parc magnifique, avec des chênes, des frênes, des ormes, un parc assez épais avec des arbres centenaires, on voit ici s'élever devant nous cette espèce de rectangle, traversé par des chapiteaux et des colonnes tronquées avec des voûtes magnifiques qui sont ouvertes sur le ciel et qui ressemblent donc à un décor. Donc au fond, nous sommes ici dans un décor et dans quelque chose qui en même temps rappelle Hollywood et ses fantaisies de carton. Le transept devant nous en haut des marches avec des colonnettes et trois cercles de pierre soutenant l'ogive très très finement travaillée et surgissant du désastre de l'histoire évoque donc les studios de Boulogne, où un scénario d'un film célèbre où Lancelot vole Ava Gardner à Mel Ferrer. Et les habitants de Damary-les-Lys ne s'y sont pas trompés et ont très vite réduit cette abbaye à sa condition de décor en effet, puisque pendant des années, ils ont organisé dans ces ruines une procession en l'honneur de Jeanne d'Arc, où les habitants étaient transformés, qui en Jeanne d'Arc, enfin la plus jolie des habitantes était transformée en Jeanne d'Arc, et les plus affreux des habitants étaient transformés en gardes anglais, ou pire encore, en évêques cochons. La bergère de Don Rémy était habillée en première communiante et chevauchait un cheval du centre équestre de Damary-les-Lys et se promenait au milieu des ruines. Et il y avait d'ailleurs dans un coin une copie de la grotte de Lourdes. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que ces reconstitutions de grottes de Lourdes se sont répandues à travers la Terre, et c'est ainsi que j'en ai vu dans la Mayenne, et j'en ai vu même dans une île de l'archipel des Fidji, où un jésuite avait construit une église en pierre, et peint à fresque dans le cœur de cette église en pierre, juste à côté de la grotte de Lourdes, une magnifique crucifixion où un messie mélanésien se voyait offrir en lieu et place du vinaigre du soldat, un bol de cava, boisson drogue en réalité, par un chef coutumier. Je suis content de vous avoir emmené à l'abbaye du Lys parce que c'est un des endroits où Agram Bagramko, le peintre dont nous suivons l'itinéraire en remontant la Seine, itinéraire qu'il a décrit lui-même dans ce magnifique livre qui s'appelle « Ma source, la Seine », publié aux éditions de La Sirène, qui a été l'un des derniers livres publiés aux éditions de La Sirène avant sa fermeture. Agram Bagramko, donc, venait souvent peindre à l'abbaye d'Ulysse. Agram Bagramko est ce peintre aux origines imprécises, adepte du surréalisme depuis le groupe des Sommeils, très ami d'André Breton, et dont les œuvres sont largement conservées maintenant au musée d'art de Vancouver, jusqu'à ce que la fondation Hartung lui consacre, sur la Côte d'Azur, une rétrospective, ce qui devrait arriver au cours de l'année prochaine. Bagramko est donc resté lié au mouvement surréaliste pendant toute la période de l'avant-guerre. Ses œuvres étaient extrêmement appréciées de Max Ernst et de Magritte. Breton lui a consacré plusieurs lettres et deux articles critiques. Et il a quitté la France pour ne plus y revenir, non pas après la défaite, c'est-à-dire il ne s'est pas embarqué avec Breton pour le New York, il est resté en France un certain temps. Nul ne sait exactement ce qu'il y a fait, sauf qu'il a rejoint la France libre dans le Pacifique en 1942, a effectué plusieurs missions en Indochine, s'est acquis des titres de gloire assez éclatants. Il avait été naturalisé français peu avant la guerre, en 38 ou 39, si je me souviens bien. Mais après la guerre, ayant rendu ses services éclatants à la France, assez étrangement, ce grand ami de la France n'y est pas revenu. Il a vécu quelque temps dans le Kentucky, puis ensuite au Canada, en Colombie-Britannique. Et c'est là où il a fait ses grandes toiles de la dernière manière, ces toiles immenses qui rappellent un peu Vifredo Lam, Nous ne reviendrons plus, Le monde d'avant, pour finir par une sorte de transposition personnelle des totems des Indiens Haïda de l'île de la Princesse Charlotte que l'on peut voir donc au musée d'art de Vancouver. Et c'est donc ici, à l'abbaye d'Ellice, que Agram Bagramko a assez longtemps planté son chevalet dans les années 1932-1933. Et ça n'était pas du tout pour y peindre des arcades brisées. Assez curieusement, l'air assez magique et extraordinaire de ce lieu l'inspirait, mais pour peindre tout autre chose que ce lieu lui-même. Et c'est ici qu'il a réalisé un tableau qui est un tableau d'intérieur et qui reste, à ma connaissance, son seul tableau figuratif qui figure maintenant dans une collection privée. Dans les années 1990, on pouvait l'admirer chez Samir Mansour, le mari de Joyce Mansour, la poétesse amie d'André Breton, dans un appartement des immeubles Walter, et je ne sais pas ce que ce tableau est devenu après sa mort. André Breton mettait ce tableau de Bagramko très très haut. C'est une peinture énigmatique qui représente un grenier. Sur le plancher, une femme est étendue comme si elle venait de s'écrouler. Elle porte une robe noire à la mode des années 1910, et près d'elle, sur le parquet, une lettre ouverte, une cravache, une alliance et, je n'en suis pas sûr, mais je crois bien m'en souvenir, un bouquet de fleurs. C'est le point final d'une histoire inconnue que chacun se sent irrésistiblement porté à imaginer. Le tableau s'intitule « Pour saluer le baron Frédéric ». Et il est clair que le baron Frédéric a compté dans l'imaginaire d'Agram Bagramko. Léon Frédéric était un peintre belge dont rien n'indique par ailleurs que Bagramko l'ait connu autrement que par ses œuvres. Il a peint des tableaux de genre rural, les âges du paysan, les repas de funérailles, et il est curieusement venu au surréel par le pompier. Son chef-d'œuvre est un intérieur d'atelier qui a sans doute retenu Bagramko et qui a probablement inspiré le tableau de la femme écroulée dont je viens de parler. Cet atelier est une chambre du rez-de-chaussée dont une fenêtre donne sur un jardin, l'horizon étant fermé derrière le jardin par des cyprès de cimetière. Et au premier plan, on voit un homme barbu, entièrement nu, assis sur une chaise, qui tient sur ses genoux un squelette soutenant la tête que prolonge à l'extérieur des cyprès. Mais il détourne son visage aux yeux fermés. Le squelette, lui, est habillé d'une robe de femme recouverte d'une mousseline semée d'étoiles et de curieuses bandelettes paraissent flotter dans l'air autour de ce groupe. Sur une chaise, en haute forme, sous la chaise, des bottines et du linge. Et sur une autre chaise, le reste des vêtements noirs de l'homme avec une chemise blanche empesée. Au pied nu de l'homme, un journal ou une carte routière. Une palette occupe le premier plan, les pinceaux sont rangés, et on peut croire que le peintre s'en est allé laissant le modèle à sa tétanie rêveuse, ou qu'il est en réalité le modèle lui-même, qui est passé, comme Bagramko, pendant toute sa vie, de l'autre côté du tableau. Et à l'un de ses amis surréalistes, qui lui demandait dans une lettre de lui expliquer la femme jetée sur son plancher, qu'il avait peinte donc ici à l'abbaye d'Ellice, Bagramko a répondu simplement en citant Paul de Tarse, « Aujourd'hui, nous voyons toutes choses en énigme, mais un jour, nous connaîtrons comme nous sommes connus. »
Et ainsi s'achève
crochet de notre émission, on se retrouve lundi pour une nouvelle grande table d'été consacrée à l'exposition du lieu unique de Nantes, L'humanité végétale de Mario Del Curto. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Djergaillan, Lou Quevauvilliers, Henri Leblanc, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Marie Placé, à la technique Valentin Bobinet. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.